Mesdames, messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre avec vous dans cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui à l'animation, monsieur Yannick Patelli. Yannick, bonjour.
Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, quotidienne particulière puisque nous n'aurons pas d'invité en studio, nous n'aurons pas d'invité par Zoom. On essaie de temps en temps d'aller sur le terrain et rencontrer du monde à la ferme. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, ces dernières semaines, je me suis effectivement rendu à Saint-Pierre-d'Isbretonne à la rencontre d'un producteur assez flamboyant qui est à la limite de l'Aubinière et de la Beauce. Et que ce soit dans le monde du lait, dans le monde du syndicat, dans le monde de la sériculture, vous allez voir ce producteur qui se fait appeler Colombo par certains dans sa région. On a beaucoup à dire. Je vous laisse écouter. Alors bonjour monsieur Raymond Gagné, on est très content que vous nous receviez dans votre maison. Vous êtes un producteur, vous avez été un producteur pendant longtemps en fait, dans la Beauce on va dire, dans l'Aubinière, à la limite de l'Aubinière et de la Beauce.
Aux abords de la Beauce. Nous autres, ils nous ont sortis de la Beauce il y a quelques années, ils nous ont envoyés dans l'Aubinière. Mais mon cœur a toujours resté dans la Beauce.
Puis vous étiez producteur dans quel domaine? Dans le domaine du lait?
J'ai commencé avec le lait. Puis le sirop d'érable. Et puis j'ai cheminé du bois, j'ai acheté des terres. La première terre que j'ai achetée, la terre de titre, là. Et puis en 64, puis à l'automne 64, j'en ai racheté un autre. J'avais pas une scène, mais le gars arrive ici pour me vendre sa terre. Puis j'ai dit, elle m'intéresserait, mais j'ai dit, j'ai pas d'argent pour payer, je commence. Il dit, j'ai pris des informations sur toi, puis il dit, on m'a dit que je serais payé. Ça fait qu'il me demande, j'y demande comment tu demandes. Il me demandait 3000 piastres. Il y avait à peu près 3000 en taille, 700-800 cordes de pitoune, un petit peu de prairie, pas tellement, mais en tout cas, un petit peu pour du package, là. Fait que j'ai acheté à terre, pas une scène cash.
Acheter des terres autrefois, c'était un petit peu plus facile qu'aujourd'hui, là.
Oui, oui, c'est pas les mêmes prix, là. Aujourd'hui, là, si je vendrais mes terres, là, j'ai 1000 carrés. Et je vendrais, en tout cas, j'ai fait évaluer un peu, là, puis on m'a parlé de tout près de 2 millions.
Dites-moi aussi, vous m'avez dit, quand on s'est parlé au téléphone, que vous faisiez appeler Colombo dans la région. Alors, moi, j'aimerais ça savoir pourquoi vous faites appeler Colombo pour commencer.
C'est parce que moi, j'étais administrateur au syndicat du bois, puis du sirop d'érable, puis de l'UPA de la Beauce. Et puis, ça placotait, puis de temps en temps, ben j'émettais mon opinion. Et puis assez souvent, ça l'accrochait, tu sais. La secrétaire, elle servirait vers moi. Puis, monsieur Colombo, s'il y a une opinion là-dessus, ben je donnais mon opinion. Puis ça l'a resté, ça, pendant des années, tu sais. Colombo. Il y a quelques années, deux ans, trois ans, ma fille en rencontre une madame dans une réunion, puis ils se sont identifiés. Et puis la madame qui était à l'UPA a dit, tu serais pas la fille à Raymond Gagné, toi? Elle a dit oui. Elle a dit, vous le connaissez? Ben oui, elle a dit Colombo. Elle a dit, tout le monde a connu ça dans Beauce.
Donc vous avez été très impliqué aussi dans le syndicat de l'UPA?
Oui, oui, j'étais au syndicat de l'UPA, puis j'étais au syndicat du bois, puis au syndicat du sirop d'érable, 28-30 ans de suite. Je le disais, j'y viens plus, là. Le prochain, même que mon terme est fini, trouvez-vous un autre. Et puis, toi, là. Ça fait que, quand c'était la nomination, j'y allais pas, la réunion. Et puis, le lendemain matin, la secrétaire appelait site. Elle disait, vous avez été renommé hier soir, est-ce que vous acceptez un nouveau mandat? Ben, coudonc, j'avais pas le choix, là, la réunion était passée, puis ils m'avaient nommé. Mais à un moment donné, quand j'ai voulu là, lâcher ça pour good, là, je me suis trouvé des gars. Puis j'ai été aux réunions, puis je les ai nommés à ma place. Il y a un à seconder, puis moi, j'étais sorti de là, tu sais. J'ai sorti des trois places de même, là, en me nommant un gars moi-même pour me remplacer. Faut croire que je faisais l'affaire parce que il y en a qui ont fait pas mal moins long que ça.
Alors, monsieur Raymond Gagné, dit Colombo, maintenant qu'on se connaît bien, vous m'avez montré quelque chose en arrivant, une crémeuse que je n'avais en fait jamais vue. J'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu en vrai une crémeuse aussi ancienne que celle-là. Expliquez-nous quelle était sa fonction.
La fonction de la crémeuse, il tirait les vaches. Il mettait le lait dans ce contenant-là, une crémeuse qui pouvait loger là, un 3 ou 4 gallons de lait. Il mettait la crémeuse dans un bassin d'eau courante pour faire refroidir le lait. Le lait, en refroidissant, la crème monte sur le dessus. Puis le lait reste dans le fond. Il y a une petite valve dans le bas, là. Puis il y a un petit châssis, si on peut dire, en vitre, là. À peu près 3 pouces de long, 3 quarts de pouce de large. Et puis il rouvrait la valve, puis il laissait sortir le lait. Puis tout d'un coup, il voyait arriver la crème par le petit châssis. Fait qu'il laissait vider complètement le contenant. Quand la goutte de crème arrivait en dessous, il fermait la valve. Et puis, c'est là qu'il ramassait la crème. Puis la crème a été utilisée pour faire du beurre. Et puis, pour faire du beurre, ben il n'y avait pas une baratte là, qui faisait 10 livres de beurre à la fois. Là. Il mettait la crème dans un contenant hermétique qu'il laissait reposer sur le comptoir une semaine de temps pour qu'elle puisse mûrir. Puis quand venait le temps, il prenait le contenant puis il brossait à la main.
Est-ce qu'on venait chercher la crème à la ferme à cette époque?
Là, moi, écoute, là, c'est de quoi qui m'a été compté, là. Moi, je...
Oui, parce qu'on parle des années fin 1900.
Oui, oui. Il se ramassait pas de crème chez le producteur, là. C'était chaque producteur pour ses besoins personnels puis sa famille, si on peut dire, là.
Puis après, dans les années 50, 60, c'est quoi que quand il y a eu le transfert du transport, le passage de la crème au lait, vous avez été impliqué, vous, là-dedans, dans la région?
Ben, la crème au lait, là, quand la crémeuse, disons qu'elle était passée date, là, ils sont mis à ouvrir des fromageries dans les reins. Il y en avait une dans le rein chez mon père. Et le matin, mon père, il tirait les vaches. Il mettait le lait dans la canisse à lait, qu'il appelait, ou bien le bidon comme ça, là. Et puis, à tous les matins, il allait porter le lait à la fromagerie. Il mettait la canisse à lait d'une charrette, nous autres, on appelait ça le banneau. Il y en a qui appellent ça un tombereau, nous autres, c'était le banneau. Puis il attelait le bœuf sur le banneau. Puis il allait porter la canisse à lait à la fromagerie. Et puis le fromagier, lui, il allumait son feu le matin vers 6 heures pour faire de la steam. Et puis il fallait que le lait soit tout arrivé à la fromagerie pour 8 heures. Fait quand il y avait des retardataires, le gars, il tirait sur une corde, puis il sortait de la steam dedans son balleur, puis ça criait, ça pareil, comme quand on était jeune, on entendait l'ingente de chemin de fer qui passait à East Broughton, là, on entendait crier le chemin de fer, ben ça faisait un cri pareil comme ça. Ça retentissait à grandeur du territoire. Fait que les gars, ben ils savaient qu'ils étaient en retard de pêche-toi, et le gars va... Fait qu'à 8 heures, lui, il fallait que son lait soit tout arrivé dans le grand bassin. Il vidait tout le lait dans un grand bassin. Puis à 8 heures, il rouvrait des valves. Puis il envoyait la steam, là. Il envoyait ça dans le bac à lait pour stériliser le lait. Ça, moi, je l'ai vu faire. J'avais, c'est bien 5 ans, 4 ans, 5 ans, mais je me rappelle de ça. Il envoyait la steam dans le lait. Puis là, ça bouillonnait, là, dans le lait. L'air, là, sortait, là. Et puis, ensuite, là, ça le stérilisait. Et ensuite, il ramassait son petit contenant qui avait de la pressure dedans pour faire du fromage. Il savait la quantité de lait qu'il avait, puis la quantité de pressure, ça lui prenait. Il vidait ça dans son grand bassin. Puis là, il y avait des grands palettes, là, puis il brossait ça, puis de coup, puis c'était viré en fromage.
Puis après, il y a eu la période où vous êtes impliqué dans le passage au lait, c'est ça? Dans le transport.
Oui, ça, c'était dans le temps de la canisse à lait qu'on appelait, là. Ensuite, il est venu la période de crème. Le gars, il passait le lait au séparateur. Il mettait le lait dans des bidons de 8 gallons. Puis deux fois par semaine, il passait un camion. Puis il emmenait ça au village dans une beurrerie. Puis il faisait le beurre, puis eux autres, ils vendaient le beurre, puis... Les producteurs, ben, ils étaient payés selon la quantité de crème, puis selon le gras qu'il y avait dedans, puis ça marchait comme ça, tu sais. Et puis, à un moment donné, là, la méthode de la crème, là, ça a changé, ça. Moi, quand j'ai arrivé ici, en 66, là, et crémé le lait, et puis envoyé mes bidons de crème, là, moi, ça me le disait pas pantoute. Il y avait d'autres choses à faire dans la vie, tu sais. Fait que j'ai appelé une compagnie, une industrie qui ramassait du lait à Saint-Agapit, la compagnie Vermette. Fait que je les appelle, puis je leur dis ça, je serais intéressé à envoyer mon lait. Ah, ils ont dit, on va aller chercher demain matin. Mais j'avais pas de contenant, de bidon, moi, pour mettre mon lait, là. Ça fait que j'avais 2-3 bidons que j'avais achetés à l'Anquin, là. Puis j'avais 7 vaches. Ça fait que j'avais quelques bidons. Fait que j'ai monté à la cabane, j'ai été chercher mes sciaux au concours les érables le printemps, puis des chaudières d'aluminium. J'ai mis mon lait du soir dans les bidons, puis le lait du matin, je l'ai mis dans les sciaux. Des contenants de 5 gallons, puis de 2 gallons, là. J'ai coulé ça là-dedans. J'ai mis une couverte dessus pour pas qu'il y ait de saleté. Quand le camion est arrivé, il a chargé les bidons, puis il y avait des bidons à vendre dans son camion. Fait que j'ai pris les bidons que j'avais besoin, puis il dit, t'as pas besoin de les payer. Il dit, on va te garder 2 cents, 3 cents la livre. Il dit, jusqu'à temps que ça va effacer ton compte. Fait que les bidons m'avaient coûté à peu près rien, si on peut dire, c'est eux autres qui les fournissaient.
Puis vous avez initié comme ça un peu le transport du lait dans la région?
Oui. Au bout d'une quinzaine de jours, j'avais reçu une paye de lait de 7 vaches. Je vais chez mon père. Mon père, il avait 14 vaches. Et il dit, « C'est-tu plus payant aller au lait ou bien aller à la crème? » Ben là, j'ai dit, j'avais emmené mon talon de chèque. Je montre ça à mon père. Il dit, « Mon petit mouru, il dit, t'as leur double comme moi, avec 7 vaches. » Ben, j'ai dit, faut croire que j'ai des vaches meilleures que les vôtres, tu sais, pour agacer un peu, là. Non, il dit, c'est pas ça, là. Il dit, arrête un peu, là. Il dit, ils ramasseraient-tu le mien? Ben oui, j'ai dit, ils ont ouvert une run par ici. J'ai dû faire ouvert une run, tu sais. Fait que le lendemain, j'ai dit, ramassez votre lait à soir, là. Mettez ça dans vos bidons. Puis j'ai dit, si vous prévoyez qu'ils n'avaient pas de place, faites comme moi, allez chercher de quoi à la cabane, des sciaux pour courir les arabes, des chaudières d'aluminium, mettez ça dedans. Demain matin, ils vont arriver avec des bidons vides. Puis ils vont vous les vendre, mettez ça dedans, puis ils vont venir chercher votre lait. C'est bien, ça fait.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Donc là, en fait, ce que vous me dites, M. Gagné, c'est qu'une fois que vous avez convaincu votre père de quitter la crème pour aller au lait, ça s'est comme répandu partout dans le village.
Oui, ça s'est répandu dans le village. Puis les voisinages sont arrivés, puis envoyaient les chenaux, puis envoyaient les chenaux, puis envoyaient les chenaux. Un dimanche après la messe, il y a un directeur de la beurrie qui vient me trouver. Il dit, arrête de nous envoyer, de nous ôter nos patrons. Si tu continues de même, il dit, printemps prochain, il dit, on ne rouvrira pas. J'ai dit, je vais là où ça paye. Puis j'ai dit, si les vieux ne l'ont pas compris encore, là, j'ai dit, je m'en vais lui montrer, moi, tu sais. Le bonhomme avait reviré de bord, insulté ben noir, tu sais. Mais ça a pris à peu près 2 mois, la beurrie était fermée. Tout le monde allait au lait. Le gérant de la caisse populaire, je vois là, il dit la plus belle affaire qu'il y a eu de faite dans la place, il dit, c'est d'avoir fait venir un troc de lait. Il dit, les gars arrivaient ici de changer le chèque de paye, 50, 60 piastres, 55 piastres, 65 piastres, il dit, ils arrivent avec un chèque de 125 puis 150 piastres. Tu sais. Bon, il dit, c'est la plus belle affaire qui a été faite dans la paroisse.
Dans le lait, vous êtes démarqué pas mal. Mais quand vous m'avez parlé au téléphone, vous m'avez dit aussi que même dans l'érable, dans la sériculture, vous êtes quelqu'un qui avait quand même développé quelque chose d'un peu particulier dans votre région.
Ben, j'ai développé quelque chose dans la sériculture, oui. À un moment donné, on entoyait les érables sur les chaudières. Et puis, la première année, j'avais entoyé sur les chaudières. La deuxième année, j'avais entendu dire qu'il y avait un gars de Saint-Patrice qui avait entoyé ses érables avec de la tublure. Puis, il n'était pas capable de faire marcher ça. Ça ne fonctionnait pas. Il avait tout démanché ça, puis il avait mis ça dans le hangar chez eux. De quoi ce qu'on appelait dans le temps le porc à avoine. Les gars battaient, puis ils mettaient leurs avoines dans un porc, là. Puis là, ben le porc était vide, ça fait qu'ils étaient mettre ça là-dedans. Un lot de tublure, puis des mains à mancher sur une broche, puis twister tout le kit, tu sais, là. Fait que je pars, moi, avec un gars, un pick-up, une boîte fermée, et je descends, je savais son nom, et je m'en vais là, puis j'achète ça. J'ai sorti ça de là quasiment pour rien. Lui, il n'avait plus besoin, puis débarrasse-moi de ça, tu sais. Fait que je charge ça, j'ai emmené ça ici, puis j'ai modifié la façon que le bonhomme avait à marcher ça. Puis là, les voisins, ils savaient que je faisais ça. Ils n'arrivaient, puis moi, ici, les voisins, ils m'appelaient le jeune Chris. Parce qu'eux autres, ils avaient 58, 60 ans, puis moi, j'étais dans la vingtaine. Puis je faisais des affaires qu'eux autres n'avaient jamais pensé, tu sais, là. Ça fait que je commence à installer ça dans l'érablière. Et puis, il arrive un voisin, il se met à regarder de ça, tu sais, puis il parle pas, il vire de bord, puis il s'en va. Le lendemain matin, tout le monde du Rhin savait que j'étais après à mancher des fils d'arnier dans l'érablière. C'est là qu'il va virer sur le dos, le jeune Chris. Et il dit, le printemps prochain, ça va tout être enterré, ça, vous allez être obligé de pelleter ça, puis ça, il travaille, puis ça ne dira pas trop urgent, puis c'était ici, puis c'était ça. Fait que moi, je modifie tout le modèle que le bonhomme avait là-bas. Et puis, il manquait, lui, un petit morceau, là, même, dans son système. Puis moi, je l'ai fait faire. Et puis, j'ai amanché ça avec ça. Puis mon père, ben il avait entendu parler de ça, j'étais après à amancher ça, puis il était sceptique un peu, parce que les plus vieux, il avait dit que... Blablabla. Fait qu'il va sur mon père, il me parle de ça. Ah, j'ai dit, cassez-vous pas la tête dans le cocanet, vous allez tout être comme ça. Ça fait que je continue à amancher ça, moi. Dans le mois de mars, j'étais encore après à mancher de la tublure. Il vient des belles après-midi que les érables pouvaient couler. Tu sais. Fait que je monte au bois puis j'emmène le vire-braquin avec une mèche. Là. T'as déjà vu ça, un vire-braquin? Puis je prends une série puis il y avait une quinzaine d'érables dessus de mancher. Il était collecté après le Maine. Puis le Maine, lui, j'avais mis le bout d'un contenant en bas un sio, tu sais, là. Fait que je passe ma série une quinzaine d'érables, puis je la reprends en descendant. Et je m'aperçois que l'eau coulait dans le 5-16. Ça descendait en bas, ça. C'est pas malin, j'étais fou de voir marcher ça, l'eau qui descendait tout seul dans le bassin à cabane, tu sais. Ça fait que je continue d'installer ça. Puis, de temps en temps, je me faisais demander, ouais, puis, comment, puis moi, ma sucrerie, la manière qu'elle est à mancher, est en bas d'une côte, puis sur l'autre bord, elle remonte, puis elle n'est pas visible trop, tu sais. Il y avait un gars qui restait sur la roue de garage municipal en bas, là. Lui, il voyait sortir la vapeur de la boucane de la bouilleuse, tu sais. Puis, il se faisait demander, Gonyé, fais-tu bouillir? Le vois-tu faire? Faut croire qu'il descend de l'eau, il sort de la vapeur par la bouilleuse, tu sais, là. Ça fait coudon. Faut croire que ça marche.
Donc, encore une fois, vous avez donné un petit modèle, en fait, aux gens du coin.
Oui, oui. J'ai donné mon petit modèle, tu sais. J'ai entaillé 2200 érables là-dessus par gravité. Il n'y avait pas de vacuum là-dessus, là. Et puis, je sors 14 barils de sirop. Je descends mes barils de sirop aussi, puis je les corde au bout de la maison pour que c'est visible du chemin. Les gars passaient, puis ils voyaient mes barils de sirop, tu sais. Il arrive un voisin, là, le jeune Chris, là. Il vient s'asseoir sur la galerie le soir, puis on commence à placoter. Et il dit, « C'est-tu tout plein, ça, il dit, ces barils-là, là? » J'ai dit, « Oui. » Il dit, « De l'eau ou ben du sirop? » Hey, j'ai dit, « Penses-tu que j'ai le temps de m'amuser, moi, là, j'ai dit, à mettre de l'eau dans les barils, là? » J'ai dit, « Vas-y, voir. » Il se lève, puis il s'en va taponner les barils, puis il secouait. Puis il s'est aperçu que c'était du sirop qu'il y avait dedans. Il dit, t'as fait 14 barils de sirop, dit. T'as pas eu besoin d'élever les chemins de cabane. tu n'as pas eu besoin de courir les Arabes avec une paire de raquettes. Puis il dit, tu fais 14 barils de sirop. Oui, j'ai dit, j'ai bien fait bouillir. C'est l'ouvrage que ça m'a donné. Là. Ben là, il n'en revenait pas. Le lendemain matin, tout le monde savait que j'avais fait 14 barils de sirop, puis qu'ils étaient venus les inspecter chez nous. Et puis j'avais fait ça sans ouvrir les chemins de cabane avec un cheval, puis sans avoir à courir avec une paire de raquettes, puis tout le kit, tu sais.
Alors, M. Gagné, vous m'aviez dit que vous faisiez surnommer Colombo un peu partout dans la région, et entre autres au syndicat de l'UPA. Ouais. Puis vous avez été très impliqué, vous m'avez dit dans le début de l'entrevue avec les syndicats de l'UPA. Quelle a été la contribution que ça a eu pour vous dans votre carrière, en fait, de participer au syndicat?
Ben moi, d'aller là, ça m'a informé, ça m'a instruit. Parce que quand on était jeune, moi, j'allais à l'école, puis à l'âge de 12 ans, 11 ans, mon père m'a retiré de l'école. Parce qu'il fallait courir les Arabes, puis il était tout seul. Fait qu'il avait dit à la maîtresse, il avait dit, il va, viens faire un truc avec moi, puis il dit, après le truc, il dit, va revenir. Et j'ai jamais retourné. Ça fait que j'ai pas d'instruction tellement, tu sais. Mais avoir passé des années dans le syndicat du bois, du sirop d'érable, et puis de l'UPA, du canton de Broughton, puis tout ça, j'ai été chercher beaucoup d'informations. Et puis, moi, ça rentrait, puis ça restait là, tu sais. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé, ça.
Ça vous a permis aussi d'avoir... Ben, vous avez démontré que dans la sériculture, vous avez fait des choses un peu précurseurs. Dans le lait, la route du lait, c'était un peu précurseur aussi. Oui. Mais pas seulement. Dans votre région, vous m'avez dit aussi que quand il était question d'implanter des éoliennes dans la région, ben, vous avez regardé ce qui se passait un peu ailleurs dans d'autres régions. Vous vous êtes dit, nous, on va toucher plus que les autres. C'est ça que vous m'avez dit.
Ben, en tout cas, moi, quand le monsieur est arrivé ici... Et pour même parler des éoliennes, si j'étais d'accord à avoir un parc éolien sur mes terres, c'est moi qui ai le haut de la montagne, puis il dit tenait autour de là. Ça fait que, ouais, j'ai dit, j'en fais pas de cas. J'ai dit, comment ça paye, ça? Moi, il est toujours question d'argent. Tu sais, quand il y a une pièce à quelque part, moi, je la vois. Tu sais. Ça fait que, il dit, vous allez recevoir 600 pièces la semaine prochaine. Puis il dit, s'il y a des revenus, là, il y en surplus, il dit, on fera un partage. Ah, oh, ben, j'ai dit, je ne me fierai pas là-dessus. Il dit, comment ça? J'ai dit, vous n'avez planté, j'ai dit, dans le bas du Saint-Laurent, à Saint-Léandre, Medoxville, ces coins-là. J'ai dit, les gars étaient tout heureux de voir arriver ça. C'était le nouveau monde qui arrivait, des éoliennes dans leur coin. Et puis, ils ont tout accepté le 600$, puis ils vous ont signé ça. Et puis j'ai dit, je me suis monté un dossier, je savais que ça pouvait venir par ici. Je me suis monté un dossier, j'ai dit des revues de journaux. Ma fille, elle travaille dans un bureau de médecin. Puis je disais, quand tu verras des rapports d'éoliennes, là, à quelque part, là, j'ai dit, si la revue est vieille un peu, j'ai dit, mets ça dans ta sacoche, puis j'ai dit, ou déchire la page, puis emmène-moi ça ici. Elle m'emmenait ça ici, puis elle m'était fait un dossier, tu sais. Fait que j'ai dit au gars, j'ai dit dans le Bas-Saint-Laurent, là, ils ont eu 600$, puis ils n'ont jamais eu une scène de plus. Ah, il dit, c'est pas nous autres qui étaient là. Pas nous autres qui est là. Ah non, c'est pas vous autres qui est là. J'ai dit, comment est-ce que vous avez de part? J'ai dit, dans la compagnie Cartier, monsieur. Ça l'a fait un grand silence. À un moment donné, il dit, on a 63% des parts. Ben, j'ai dit, viens pas me dire que t'as pas d'affaires là, tu sais. J'ai dit, ici, j'ai dit, t'es dans la Beauce. Dans le bord de la Beauce, j'ai dit. T'as pas affaire à une gang de ticounes, là, j'ai dit. On va vous négocier. Jamais qu'on va négocier. Ben, j'ai dit, vous resterez chez vous, j'ai dit. Retire ton option. J'ai dit, j'en ai trois aux autres, j'ai dit, qui ont deux cartes d'affaires sur la tablette, c'est là. Ils attendent que tu te tasses pour venir prendre ta place. Jamais qu'on va négocier.
Puis de 600$ par éolienne par année, vous êtes passé à combien?
Ben, ils ont accepté de venir négocier. J'avais emmené, moi, deux directeurs de l'UPA de la Beauce, puis deux directeurs du syndicat du bois. Puis je savais que c'était des bilingues. Puis les gars avec qui qu'on parlait, là, c'était des Anglais. Mais ils nous avaient dit, on va avoir un interprète. Ça fait quand on a commencé à les négocier, ils se sont présentés, les Anglais sont assis sur un bord, puis l'interprète s'est assis devant nous autres un peu. On posait une question, mais ils ne savaient pas qu'on avait des bilingues, nous autres, tu sais. Ça fait que quand on leur posait une question, il la répétait à ses Anglais, mais c'était pas la même question. Puis quand il répondait, il nous répondait, puis c'était pas même sur le même sujet, tu sais. Ça fait qu'à midi, sur l'heure du dîner, j'ai été trouver le bilingue. J'ai dit, vous allez nous laisser faire. J'ai dit, oui, capable de s'organiser tout ça. Oui, mais dis, quoi c'est que vous allez faire? J'ai dit, on a nos propres bilingues. Oh! Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, puis c'est lui. C'est des gars qui travaillent, j'ai dit, à l'UPA. Il y en a deux, c'est eux autres qui négocient avec les papetières pour la vente de pitounes, le bois de pulpe, là. Puis j'ai dit, c'est eux autres qui Kroger, puis Price, puis tout ça, ça marche bien que je suis l'anglais, puis eux autres, ils vont négocier avec eux autres, puis ça négocie en anglais. Fait que j'ai dit, ils sont capables de comprendre de quoi ce qui se passe ici. Vous remercie, monsieur, puis je dis, vous savez quasiment, en voulant dire, votant, puis d'affaires à jouer. Fait que dans l'après-midi, bien là, ils ont recommencé à négocier en eux, là. Mais on posait une question, puis ça nous répondait comme il faut, parce qu'ils savaient que nos bilingues étaient là.
Le prix a été pas mal plus alléchant après.
Quand on les a lâchés au bout de 10 jours de souffrance, si on peut dire, je rentrais là le matin, moi, avant de rentrer, j'allais à la pharmacie, t'es proche, j'allais faire prendre ma pression. 158, 162, 160, tout est beau, monsieur. Quand je ressortais le soir, j'allais refaire prendre ma pression. 200, 210, 215, 200, 195, tu sais. La dernière journée, la madame de la pharmacie, vous allez toujours me dire, monsieur, c'est quoi ce qui se passe? Vous venez ici le matin, vous êtes normal, 155, 158. Le soir, vous venez de vous rejoindre, de dire 200 puis 210. De quoi ce qui se passe, monsieur, dans le jour? J'ai dit, oui, après négocier un parc éolien. Puis j'ai dit, ça sert passablement. Ça l'achève-tu, ça? J'ai dit, c'est la dernière journée aujourd'hui. J'ai dit, elle dit, une chance que c'est la dernière journée, parce qu'elle dit, je vous ai retiré de là. C'est dangereux pour vous, ça, tu sais.
Mais ça a été payant, par exemple.
Mais, ouais, là, tu sauras que le signe de pièce, là, je l'avais, là. Il nous a, on a, quand on les a lâchés, on était à 18 300 pièces par année, par éolienne.
Au lieu de 600.
Au lieu de 600, un contrat de 25 ans. Ça valait la peine de chicaner, hein? Ça fait que c'est ça qui s'est fait pour le... Puis là, quelques années, les options étaient finies. Ils sont revenus pour renouveler les options. Et puis, c'est bien correct, on va la renouveler. Et j'ai dit, ça a été fait ça en 2005. J'ai dit, ça fait 15 ans de ça. Et j'ai dit, l'inflation à 2 % par année, tu me remontes ça, j'ai dit, de 30 %. Il a grimacé et il venait pas beau, le bonhomme. Mais il a fini par accepter d'augmenter notre prix de 30 %, ce qui nous faisait 24 000 coques par année par éolienne.